Silcast présente Plongée profonde. Thème du jour géopolitique, avec Alex et Sacha. Bonne écoute.
Sacha, j'essaye de visualiser la scène. On a Trump qui annonce dimanche soir sur Truth Social un truc qu'il appelle Project Freedom. Lundi matin, l'opération démarre. Et dans la journée, on a 6 bateaux iraniens coulés, des missiles interceptés au-dessus des Émirats, un pétrolier en feu au large d'Oman et le président qui menace de rayer l'Iran de la surface de la Terre. On est où, là, exactement ? Au bord d'une guerre généralisée.
On y est déjà en réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre n'a pas commencé hier. Selon les chiffres rappelés par le monde diplomatique, l'agression israélo-américaine date du 28 février. Depuis, l'Iran filtre le détroit. Plus de 850 navires sont bloqués dans le Golfe, avec environ 20 000 marins à bord, et il y a eu un cessez-le-feu négocié par le Pakistan en avril, qui n'a jamais réussi à rouvrir Hormuz. Donc, Project Freedom, c'est pas une rupture, c'est une tentative de sortie par le haut d'un pourrissement que Trump ne supporte plus politiquement.
D'accord, posons le cadre alors. Le détroit d'Hormuz, pour les auditeurs et pour moi qui découvre encore ces sujets, c'est ce goulot entre l'Iran et la péninsule arabique par où passe une part énorme du pétrole et du gaz mondial. Le diplo donne des chiffres assez vertigineux. 250 millions de barils de brut en moins entre fin février et fin mars, jusqu'à 600 millions potentiellement fin avril.
Et l'AIE a sorti 400 millions de barils de réserves stratégiques, la plus grosse mobilisation de son histoire.
Exactement. Et c'est là qu'il faut comprendre la mécanique. La consommation mondiale, c'est environ 100 millions de barils par jour. Donc les 400 millions libérés, ça représente 4 jours de consommation mondiale. C'est massif symboliquement, mais ça ne remplace pas durablement le flux interrompu. Le baril est passé de 60 à plus de 100 dollars. Ce n'est pas le pic de 2008 à 2100 dollars, mais le FMI prévient que si ça dure jusqu'en 2027 avec un baril à 125, on va vers une dégradation sérieuse de l'économie mondiale. Et on voit déjà les effets de recomposition. Selon le Guardian, le Japon vient de recevoir sa première cargaison de pétrole russe depuis le début de la guerre, via le projet Sakhalin 2, qui n'est pas sous sanction.
Ça, c'est savoureux d'ailleurs. Le Japon, qui dépend à 95% du Moyen-Orient pour son pétrole, se retrouve à acheter du brut russe parce que ses alliés américains ont déclenché une guerre qui ferme Hormuz. C'est presque un cas d'école de retour de bâton géopolitique, non ?
C'est surtout un cas d'école sur la nature réelle des sanctions et des alliances. Les sanctions contre la Russie n'ont jamais été conçues pour être étanches. Sakhalin 2 a toujours bénéficié d'exemptions parce que les majors japonaises et occidentales y ont des participations. La guerre contre l'Iran révèle ce que les militants disaient depuis le début. L'architecture des sanctions sert les intérêts des grandes puissances, pas une moralité internationale. Quand le pétrole manque, on rouvre les robinets. Lénine appelait ça l'impérialisme, je continue à penser que c'est le bon mot.
Bon, revenons à Project Freedom lui-même, parce que je trouve l'analyse du Guardian assez mordante. L'éditorialiste explique que c'est essentiellement un rebranding d'une opération qui existait déjà, le Maritime Freedom Construct, qui se contentait de coordonner le passage par la côte sud du détroit, en eaux omanaises principalement. Trump a juste mis un nom plus vendeur dessus et l'a transformé en initiative présidentielle. Il n'y a même pas d'escorte militaire,
juste de la guidance pour les navires commerciaux.
Et c'est précisément ce qui rend la chose dangereuse, parce que Trump a élevé symboliquement les enjeux sans mettre les moyens d'une vraie escorte armée. Donc, soit l'Iran laisse passer et perd la face, soit ils tirent et on bascule. Le Guardian rappelle que vendredi encore, devant une foule de retraités MAGA en Floride, Trump disait que l'Iran n'avait pas payé un prix assez élevé. Dimanche, il bascule en mode prix Nobel de la paix, parle de discussions très positives. Lundi, on coule 6 bateaux. Les marchés appellent ça TACO, Trump always chickens out, ou plus récemment, NACHO, not a chance Hormuz opens. Sauf que cette volatilité, comme le note Bloomberg, fait gagner énormément d'argent à ceux qui parient juste avant les annonces présidentielles.
Tu touches un point qui me met en colère, là. On parle d'une guerre où 20 000 marins sont coincés sur des tankers depuis 2 mois, où des civils émiratis et omanais sont blessés dans des frappes, où le prix du pétrole impacte chaque ménage sur la planète, et il y a des gens qui font des fortunes en tradant les humeurs d'un président. C'est pas un dommage collatéral, ça. C'est le système qui fonctionne exactement comme il est censé fonctionner.
C'est même pire que ça. Regarde la séquence des frappes lundi. un pétrolier émirati attaqué par drone au large d'Oman, 3 missiles interceptés au-dessus des Émirats, un bâtiment résidentiel touché à Bouka, avec 2 blessés, un cargo sud-coréen en feu. Macron qualifie ces frappes d'inacceptables. Mais personne ne qualifie d'inacceptable l'attaque initiale du 28 février qui a déclenché tout ça. La grammaire diplomatique occidentale fonctionne toujours dans le même sens. La riposte iranienne est inacceptable. L'agression initiale est un fait stratégique qu'on commente.
Et pendant ce temps, sur un autre théâtre, on a l'Ukraine. Le grand continent publie les chiffres de Deep State. L'armée russe a fait 5100 assauts en avril, 2,2% de plus qu'en mars, mais n'a gagné que 141 km, soit 12% de moins. Il faut désormais 36 assauts en moyenne pour prendre 1 km². Et Starmer, depuis le sommet en Arménie, négocie l'entrée du Royaume-Uni dans le plan de prêt européen de 68 milliards de livres pour l'Ukraine, en disant ouvertement que les alliances ne sont pas là où on voudrait qu'elles soient. Traduction, Trump lâche les Européens.
Et c'est le lien crucial entre les deux dossiers. La position iranienne tient en partie parce que Trump est militairement et politiquement dispersé. L'enlisement russe en Ukraine, qui consomme 15 à 20% de carburant en moins, selon l'analyste Putyata, à cause des frappes ukrainiennes sur les dépôts, ne se traduit pas en victoire ukrainienne, parce que les Européens n'ont pas les moyens autonomes de finir le travail, et Trump s'en désintéresse. Donc on a deux fronts qui pourrissent simultanément, des Européens qui découvrent qu'ils doivent payer leur défense, et un président américain qui arbitre par tweet en fonction de ce qui fait remonter ou descendre le baril.
La proposition russe d'un cessez-le-feu pour le 9 mai, jour de la victoire, c'est dans ce contexte qu'il faut la lire.
Évidemment. Le grand continent le dit clairement. C'est une fenêtre tactique pour redéployer des troupes vers Donetsk et Zaporijia, probablement en vue d'une nouvelle offensive d'ampleur. Quand Ouchakov rapporte que Poutine a dit à Trump le 29 avril que les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints en toutes circonstances, il faut le prendre au sérieux. Poutine joue la montre en pariant sur la fatigue occidentale.
Bon, dernière partie. Qu'est-ce qu'on surveille dans les jours qui viennent? Moi, je note la réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU mardi sur le Liban, parce que c'est un autre front qui peut s'embraser.
Trois choses pour moi. D'abord, est-ce que les navires américains continuent à transiter sans incident majeur? Ou est-ce qu'on a un accrochage qui touche un destroyer américain parce que là, Trump est pris au piège de sa propre rhétorique du « blown off the face of the earth ». Deuxièmement, le prix du baril. S'il dérape vers 125, le scénario du FMI se concrétise et on entre dans une récession mondiale. Troisièmement, le sommet UE-UK de cet été, parce que c'est là qu'on verra si l'Europe construit vraiment une autonomie stratégique ou si elle se contente, comme d'habitude, de gérer.
Et moi, j'ajouterais, surveiller ce que fait la Chine. Parce qu'elle est étrangement silencieuse dans tout ça. Et son pétrole iranien transite aussi par Hormuz. Son silence n'est jamais neutre.
Très juste. La Chine observe, calcule et prépare probablement le monde d'après. C'est peut-être elle, finalement, la vraie gagnante de Project Freedom.
On se retrouve demain pour voir si le détroit a tenu la nuit